Bonjour à tout le monde. Je suis ébloui par, non pas par des visages, mais par le soleil de ce côté-là. Alors, ceux qui nous connaissent savent qu'un dimanche sur deux, je suis ici et les autres dimanches, je suis invité dans d'autres églises. Et vous ne savez peut-être pas, mais ça fait cinq dimanches de suite que nous sommes ici à Sonora. Et il y a une raison pour cela. Non pas parce que plus personne nous invite, mais c'est parce que dans 4 heures, on part pour 2 mois en Écosse. Donc, et ça explique qu'on partit pour que Brigitte n'est pas là ce matin, parce qu'on a un bébé à la maison, et Aliana, notre petite fille de 7 mois, sa maman arrive tout à l'heure, normalement, à midi. Et donc, nous serons absents deux mois et on revient. Dieu voulant, début mai. Le 1er mai, d'ailleurs. Donc, un jour de repos. C'est bien. Et j'allais dire autre chose, mais c'est parti. Bien. Alors, ce matin, nous allons terminer notre série dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Le texte devant nous, c'est une partie du chapitre 12 et une partie du, et tout le chapitre 13. Mais nous n'allons pas lire les versets du chapitre 12. On a déjà consacré 2 prédications au chapitre 11 et 12, et je vais surtout lire le chapitre 13. Mais pour résumer ce que Paul dit au chapitre 12, il dit principalement 3 choses. La première chose, je ne veux pas vous dépouiller. Vous savez, Paul était critiqué. Et des gens disaient, Paul, c'est un super picsou. Il veut votre argent. Et Paul s'emploie à dire, je ne suis pas là pour vos biens matériels, je suis là pour votre bien spirituel, votre bien-être. Dieu ne voulait pas l'argent des gens. Il voulait que les gens puissent mieux connaître Jésus. Deuxième chose qu'il dit, je suis là uniquement parce que je veux servir le Seigneur. Encore, Paul était critiqué de toutes parts pour tout un tas de raisons. Et il dit, mais tout ce que je veux faire, c'est servir le Seigneur. Jésus est venu nous servir, je veux le servir. La troisième chose qu'il dit au chapitre 12, je vise la maturité spirituelle de chacun. Paul dit même, je ne suis pas venu pour détruire, pour démolir, mais pour construire, pour édifier la foi des chrétiens. Donc, 3 idées de Paul au chapitre 12. Je ne veux pas vous dépouiller. Je ne veux pas vos biens matériels, mais je veux votre bien-être spirituel. Je ne cherche qu'à servir Dieu. Et je vise la maturité spirituelle de chacun. Nous allons lire maintenant le chapitre 13. Il y a 13 versets au chapitre 13. Il n'y a pas 12 versets au chapitre 12, mais il y a 13 versets au chapitre 13. Et je vais les lire et je vais vous dire que je les résume avec 4 mots. Avertissement, rappel, souhait et bénédiction. Versets 1 à 3, un avertissement. Verset 4, un rappel. Verset 5 à 12, un souhait. Et verset 13, une bénédiction. Donc je lis 2 Corinthiens 13 à partir du premier verset. Je vais venir chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Je l'ai déjà dit et je le répète, comme je l'ai dit lors de ma 2e visite. Et aujourd'hui que je suis absent, je l'écris encore à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres. Si je reviens chez vous, je ne ménagerai personne. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. En effet, lui n'est pas faible envers vous, mais il est puissant parmi vous. Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Mais j'espère bien que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas disqualifiés. Cependant, j'ai prié Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour que nous paraissions nous-mêmes avoir réussi, mais afin que vous pratiquiez le bien, même si nous semblons disqualifiés. En effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons chaque fois que nous sommes faibles, alors que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Voilà pourquoi j'ai écrit cela étant absent, afin que, une fois présent, je n'ai pas à faire preuve de sévérité conformément à l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire et non pour démolir. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. Travaillez à vous perfectionner. Encouragez-vous. Vivez en plein accord dans la paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Un avertissement. Paul dit, je vais venir. Et quand j'arrive, préparez-vous, ça va barder. Enfin, il ne dit pas tout à fait la même chose. Mais il dit qu'il va imposer ce qu'on appelle la discipline dans l'Église. Parce qu'il savait, et on le lit dans 2 Corinthiens, qu'il y avait des péchés qui étaient tolérés parmi les chrétiens dans l'Église. Il y avait des comportements anti-bibliques qui étaient cautionnés. Dans l'Église de Corinthe, il y avait pas mal d'attitudes qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu. Et Paul dit, je vais venir et on va faire un peu de ménage. Ici, il est question de la discipline dans l'église locale. Il faudrait passer tout un après-midi pour expliquer le pourquoi et le comment de la mise en pratique de la discipline dans une église locale. Mais Paul touche ce sujet ici. Il cite un verset dans Deutéronome, chapitre 19, verset 15, où il dit qu'il faut des témoins s'il y a quelqu'un qui est accusé d'un péché ou d'un crime. Et Paul dit, on va faire le ménage, je vais venir, préparez-vous. Et il parle même de l'autorité que le Seigneur lui a donnée. En tant qu'apôtre, il avait reçu une certaine autorité de la part du Seigneur. Et les anciens dans nos églises, ils ont aussi reçu une autorité de la part du Seigneur. Et parfois, on doit exercer la discipline dans une église locale. Là où nous étions dans le Pas-de-Calais, et dans la Sarthe, on a dû le faire pas tous les ans, mais de temps en temps, il y a eu des situations où les anciens ont dû intervenir. Ce n'est jamais une partie de joie, mais on doit protéger le troupeau et on doit veiller à ce que la gloire de Dieu, le nom de Dieu, ne soit pas traîné dans la boue. Avertissement, je vais venir. Ensuite, un rappel. Faible, mais fort. Il parle de Jésus qui était faible, mais fort. Au chapitre 11, au chapitre 10, il parle de lui-même, Paul. J'étais faible, mais grâce à Jésus, je suis fort. Et quand on se reconnaît faible, c'est là où Dieu nous rend fort. Jésus était faible aux yeux des humains. Ce n'était pas un chef militaire. Mais Jésus était fort, plus fort que la maladie, plus fort que les démons, plus fort que ses ennemis, plus fort que la mort. Jésus était fort. Et Paul dit, mais même si je suis faible, c'est alors que je suis fort. Certains connaissent le vieux cantique, « Veux-tu briser du péché le pouvoir ? La force est en Christ ?» Autrefois, on chantait au refrain, « Je suis fort, je suis fort. » Aujourd'hui, on chante dans le refrain, on a changé. On ne chante plus, « Je suis fort. » On chante en s'adressant à nos frères et sœurs, deviens fort. Deviens fort. Les deux versions sont bien. Hein? Je suis fort grâce à Jésus, mais on veut s'exhorter, mais deviens fort. Sois fort grâce au Seigneur Jésus. Être un chrétien costaud. Vous savez, ce n'est pas toujours ceux qui parlent beaucoup qui sont des chrétiens costauds. Ce n'est pas toujours ceux qui crient très fort qui sont des chrétiens forts. Ce n'est pas toujours ceux qui prient des longues prières qui n'en finissent pas. Ça ne veut pas dire qu'on est un chrétien costaud, fort. Mais Dieu nous appelle à être des chrétiens forts. Et comme Françoise a dit tout à l'heure, en rappelant le message de Philippe il y a 15 jours, c'est par une connaissance des Écritures et par une communion profonde avec Jésus-Christ que nous pouvons nous fortifier dans la foi. Donc si vous vous trouvez hyper faible ce matin, eh bien, tournez-vous vers les Écritures, tournez-vous vers le Sauveur et passez du temps avec les Écritures et avec le Sauveur. J'ai eu un texto hier soir d'un cher ami ancien dans une église dans le Pas-de-Calais qui est très, très malade. Il est confiné chez lui à cause de sa maladie. Et il sait, c'est un médecin d'ailleurs, que ses jours sont comptés. Et il dit, mais David, à cause de mon traitement, je dors très peu. Mais je lis la Bible plus que jamais. Il dit, avec ma lecture quotidienne, j'ai 5 mois d'avance sur l'année à venir. Et il passe du temps avec les Écritures, avec le Seigneur. Et je peux vous dire que ça le fortifie. Et il en parle à sa femme et ça fortifie sa femme également. Un avertissement, versets 1 à 3. Un rappel, verset 4. Et puis un souhait, on peut dire une prière ou un souhait, versets 5 à 12, qui se décline en 3 parties. La première partie, il souhaite que les chrétiens se laissent sonder, que les chrétiens se laissent examiner. Verset 5, examinez-vous-même. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Est-ce que vous êtes vraiment au Seigneur? Est-ce que vous êtes vraiment en train de grandir? Est-ce que vous savez où vous en êtes dans votre relation avec Jésus? Ça fait du bien de faire un bilan. Parfois, on fait un bilan de santé. On amène la voiture tous les 2 ans ou 3 ans pour un contrôle technique. Je suis allé chez le dentiste il y a quelques mois. Et il me dit, alors, monsieur Sutton, comment ça va? Je lui dis, tout va bien. Alors, vous avez des douleurs? Ben, je dis, ben non, tout va bien. Je viens juste pour un contrôle technique. Et il me dit, ah oui, mais je vais faire un contrôle. Et puis, mais vous avez déjà l'huile du Saint-Esprit. Ce n'est pas tous les dentistes qui parlent comme ça. C'est un frère en Christ qui savait que j'étais chrétien. Un contrôle technique, ça peut être salutaire de s'asseoir ou de se mettre à genoux et de se laisser sonder et de se dire, mais j'en suis où, Seigneur? Dans ma lecture de la Bible, dans ma vie de prière, dans ma relation avec mon conjoint, ma fiancée, mon fiancé, mes enfants, mon église. J'en suis où, Seigneur? Faire un bilan. Le psalmiste a prié au psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie ou une mauvaise piste. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dans Jérémie, chapitre 12, nous lisons, « Et toi, Éternel, tu me connais et tu me vois. Tu sondes mon cœur auprès de toi. » Jérémie 12, 3. Faire un bilan spirituel. Certains chrétiens font ça le 31 décembre chaque année. Mais on peut le faire toutes les semaines. J'en suis où, Seigneur? Deuxième souhait de la part de Paul, c'est que les chrétiens avancent, que les chrétiens grandissent en Jésus-Christ. Paul savait qu'au premier siècle, il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient des gamins, enfants. infantiles. Des chrétiens qui auraient dû être adultes, mûrs. Mais c'était que des gamins qui s'occupaient des gamineries. Au XXIe siècle, c'est exactement pareil. Des chrétiens qui devraient être mûrs, adultes, mais qui sont encore des gamins, qui ne lisent que les évangiles depuis 30 ans. C'est bien les évangiles, mais ça ne suffit pas. On ne va pas grandir si on ne lit que les évangiles ou un psaume de temps en temps pour apaiser sa conscience. On a besoin de grandir en Christ. Il parle ici de là du perfectionnement. Alors vous savez bien que la seule personne qui est parfaite dans cette église, c'est ma femme, et elle n'est pas là aujourd'hui. Mais le perfectionnement, le mot veut dire littéralement le fait de devenir adulte. On ne sera jamais parfait ici-bas. Il s'agit de devenir adulte, de mûrir en Jésus, de devenir mature. Comme je disais, nous avons notre petite Aliana, 7 mois à la maison, depuis une semaine. J'ai passé je ne sais pas combien d'heures avec elle, sous mes genoux ou dans le baby relax, parfois plus sous mes genoux avec Sophie la girafe. Ah, si vous ne connaissiez pas Sophie la girafe, là, il vous manque quelque chose à votre éducation. Mais Sophie la girafe, c'est tous les bébés au monde, je crois, ils ont au moins une Sophie. Alors, mais Aliana, 7 mois, elle est sous mes genoux, elle me parle en lingala, sa langue maternelle, je lui parle en français, en anglais, et je chante des chansons, mais elle a Sophie la girafe, en train de mâchouiller, à cause de ses dents qui arrivent. C'est normal pour un bébé de 7 mois. Si, dans 20 ans, Aliana revient, « Papou, je peux me mettre sur tes genoux avec Sophie la girafe ?» Je vais commencer à m'inquiéter. Elle va faire autre chose à 20 ans. Elle va grandir. Et c'est comme ça avec certains chrétiens. On s'occupe de soi. Je ne fais pas de pub pour Sophie la girafe. On s'occupe de nos Sophie la girafe, mais il y a d'autres choses à faire si on le convertit depuis un certain temps. Le chrétien ici, Paul veut qu'il soit formé et équipé pour faire face à toute éventualité dans la vie chrétienne. Quels sont les moyens que Dieu met à notre disposition pour grandir? Eh bien, il y a le peuple de Dieu. À vrai dire, je commence avec la parole de Dieu. On a déjà parlé. La lecture de la Bible. Alors, je vais vous dire quelque chose de personnel. J'ai commencé à lire la Bible de façon sérieuse il y a 50 ans. J'avais 16 ans. Donc, vous savez maintenant que j'ai 46 ans. J'avais 16 ans. Même certains pensent que j'ai 86 ans. 16 ans. Une tentation pour moi aujourd'hui et pour d'autres qui connaissent la Bible depuis un demi-siècle, c'est de dire, mais je connais. Pourquoi relire les Matthieu? Pourquoi relire Romain? Ça, c'est une tentation à laquelle on doit toujours, toujours résister. D'où l'importance de trouver des nouvelles méthodes, comme la Bible en un an. Il y a d'autres systèmes. Je me suis créé plusieurs systèmes pour relire la Bible, pour renouveler ma lecture de la Bible. Je peux le partager en tête à tête avec vous si vous voulez. Mais c'est important pour moi de retrouver une autre façon de lire la Bible pour que je puisse me nourrir. Et pour que je ne puisse jamais dire, mais j'y suis arrivé. Je l'ai lu 30 fois, ça suffit. Si je ne me nourris plus de nourriture physique, je vais dépérir, disparaître. Et si je ne me nourris plus de la parole de Dieu, je vais dépérir, je vais disparaître. On a besoin de se nourrir. Et donc, on grandit grâce à la parole de Dieu, grâce au peuple de Dieu, la communion fraternelle. Hein? On se voit, on passe du temps ensemble, et aussi grâce à la puissance de Dieu. Sa puissance qui agit puissamment en nous. On a besoin d'avancer. On a besoin de grandir et on a besoin de devenir mûr, maturé en Christ. Et puis la troisième chose, que les chrétiens s'aiment de plus en plus. Versets 11 et 12. 5 exhortations et une prière. Soyez dans la joie. Il y a un temps pour être dans la joie, il y a un temps pour pleurer, c'est sûr. Mais soyez dans la joie. Être joyeux peut être un témoignage très fort, surtout en ce moment maussade. Deuxièmement, tendez vers la maturité spirituelle. Le perfectionnement, la maturité spirituelle. Troisièmement, encouragez-vous les uns les autres. Quatrièmement, restez unis. Vivez en harmonie, dans la paix. Une chorale qui ne chante pas en harmonie fait mal aux, j'allais dire mal aux yeux, mal aux oreilles. Ça fait mal aux yeux aussi peut-être. Mais Paul dit, vivez en harmonie en tant que chrétien. Une bonne exhortation pour une journée d'assemblée générale. Saluez-vous, embrassez-vous les uns les autres. S'embraser, ça c'est un sujet fort intéressant. Il y a eu des changements, il y a eu pré-Covid, post-Covid. Et on doit respecter les changements chez les uns les autres. Mais vous savez, dans tous les pays, on ne s'embrasse pas. Même en France, il y a des changements, des différences. On commence à gauche, on commence à droite. On fait deux bises. Dans le nord, c'était 3. Dans l'ouest, au sud, c'était 4. Je ne vous explique pas, quelqu'un qui arrive en retard au culte, il y a une place au bout de la rangée, la personne passe devant 25 personnes, ça fait 100 bises. Et dans un moment de prière silencieuse, je peux vous dire que tout le monde entend. En Angleterre, est-ce qu'on se fait la bise? C'est shocking. C'est pas très british. No comment, dit-on. On connaît une missionnaire anglaise qui a passé 30 ans en France, qui a toujours refusé d'embrasser un homme. Depuis 10 ans, elle a changé. Mais sa réputation n'était pas très bonne, on va dire. On disait, mais elle est froide. Il y a déjà une autre façon de se serrer les mains, chaleureusement. Mais bon. En Écosse, on ne donne pas la bise non plus. Mais on donne des hugs. Parfois on serre, ça dépend qui c'est. Parfois on ne serre pas. Mais juste un hug. C'est sympathique. Dimanche prochain, on sera dans un culte en Écosse et on va avoir pas mal de hugs. Ça s'écrit H-U-G, il me semble. En Russie et dans certains pays de l'Est, on s'embrasse sur les lèvres. Homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme. Pendant 10 ans, j'étais engagé, je vais dire embrassé, j'étais engagé dans l'église cambodgienne, ici à Bron. Et quand on va là-bas, on ne s'embrasse pas, on ne se serre pas la main, on se tient à distance, et puis on baisse la tête. Et on se tient à distance parce que si on est trop près, on se donne un coup de boule. Et il faut à tout prix éviter de donner un coup de boule fraternel à une sœur ou un frère. Ce qui compte, ce n'est pas la façon de... Ouais, ce n'est pas la forme, c'est le fond. Et ce qui compte, c'est se saluer chaleureusement. Qu'on s'embrasse, qu'on se hug, qu'on se serre la main, ou qu'on se salue à distance pour telle ou telle raison, pas de souci. Mais chaleureusement, fraternellement. Ça, c'est les 5 exhortations, pardon. Et puis, il y a une promesse. Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. J'étais surpris l'autre jour en lisant dans le livre de la Genèse. J'ai découvert à qui Dieu a dit pour la première fois, « Je serai avec toi ». J'avais toujours cru que c'était Abraham. J'ai posé la question à quelques chrétiens l'autre jour. Ils ont dit, ah, c'était à Adam. Non. À Caïn. Non. C'était à Isaac. Textuellement, je serai avec toi. Genèse 26, verset 3, je crois bien. Mais ici, Paul dit, Dieu sera avec toi, avec vous. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu. Tout à l'heure, au début du culte, François a lu Romains 15, le Dieu de l'espérance. Ici, Dieu est appelé le Dieu d'amour et de paix. Alors, amour et paix, en anglais, vous savez, c'est « love and peace ». C'était le slogan des hippies, mais ça n'a rien à voir avec le Dieu d'amour et de paix. Ce Dieu-là, dit Paul, sera avec vous. Quelle belle promesse. La promesse de la présence de Dieu. Pour terminer, une bénédiction. Une bénédiction trinitaire. On a pas mal de bénédictions dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. François en a lu une tout à l'heure, dont Romains, je crois Romains 15 aussi. Et ici, c'est une bénédiction trinitaire. Une des toutes premières bénédictions dans la Bible, c'est dans Nombre 6, la bénédiction aaronique. Parce que Aaron devait prononcer une bénédiction sur le peuple de Dieu. Et ici, dans la version Kuhn, Alfred Kuhn, donc parole vivante, que le Seigneur Jésus nous accorde sa grâce, que Dieu témoigne son amour et que le Saint-Esprit nous accorde la communion avec lui et nous conduise. Il est question de la grâce de Jésus, de l'amour du Père, de la présence de l'Esprit. La grâce de Jésus nous envoie à Bethléem. L'amour du Père nous envoie à Golgotha. La communion, la présence du Saint-Esprit nous envoie à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. La grâce de Dieu. Devant la grâce de Dieu, il doit y avoir au moins trois réactions. Étonnement, tremblement, engagement. On est étonné que Dieu nous fasse grâce. On doit trembler dans un sens devant ce Dieu trois fois saint qui nous comble jour après jour de sa grâce. Et cela doit nous pousser à un engagement personnel envers lui, envers son peuple, envers son Église. Dieu est un Dieu tellement, tellement généreux. Il y a 150 ans, à Londres, il y avait un pasteur qui s'appelait Spurgeon, Charles Spurgeon. Et il avait à cœur de commencer d'ouvrir un orphelinat pour les enfants de la rue à Londres. Il y avait des milliers. Et il a prié pour avoir un bâtiment. Il en a parlé en public pour dire, prier et donner pour qu'on puisse acheter ou construire, ou surtout acheter un bâtiment pour tous ses enfants, orphelins et pauvres, et en danger aussi, des prédateurs. Et un jour, il reçoit un courrier d'une sœur de l'église qui ne pouvait plus sortir à cause des problèmes de santé pour dire qu'elle allait donner 20 000 livres. C'est l'équivalent de 22 000 euros. Aujourd'hui, mais il y a 150 ans, c'était une fortune. Alors, Spurgeon va voir la dame avec le trésorier de l'église pour le remercier. Mais il avait compris, non, elle a dû se tromper. Donc, ils vont voir cette dame, ils disent, merci beaucoup ma sœur, pour votre don promis, votre don de 200 livres. Et la sœur dit, ah, j'ai dû me tromper dans mon courrier. Ce n'est pas un don de 200 livres, mais de 20 000. Alors, Spurgeon s'est rendu compte que c'était lui qui s'était trompé. Qu'elle voulait vraiment dire, non, pas que 200. 200, c'est rien. Mais je peux vous donner 20 000. Et dans un sens, la grâce de Dieu est comme ça. Beaucoup plus qu'on peut oser imaginer. Beaucoup plus qu'on peut oser espérer. Cette dame a donné ce chèque, cet argent, volontairement, bénévolement, avec beaucoup d'amour et de fraternité. Beaucoup plus que ce que Spurgeon aurait imaginé. Et Dieu, il nous comble de sa grâce jour après jour. Beaucoup plus que nous pouvons imaginer. Dieu est le Dieu de toute grâce. C'est pourquoi cette bénédiction trinitaire est importante, parce qu'il est question de la grâce du Fils, de l'amour de la grâce, du Père, de la présence de la grâce, du Saint-Esprit. Alors, pour terminer ce culte, et en partie puisque c'est mon dernier pendant 2 mois avec vous, j'aimerais que nous nous levions et que nous disions, en lisant ce texte, cette bénédiction pour nous tous. Vous avez vu que j'ai changé le « vous » en « nous ». Paul dit « vous ». Moi, j'ai mis ça « nous ». Pour qu'on puisse dire ensemble, surtout en cette journée d'Assemblée générale, « Seigneur, que ta grâce soit sur nous ». Alors, je vous invite à vous lever. Et on va juste lire ça. Vous pouvez garder vos yeux ouverts, hein, si vous ne connaissez pas par cœur. Et juste ensemble, comme bénédiction communautaire pour notre Église, pour nos familles. Après deux. 1, 2. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde sa grâce. Que Dieu témoigne son amour et que le Saint-Esprit nous accorde la communion avec lui et nous conduise. Amen. Bon dimanche.